Salut, c'est Romaric, bienvenue dans Graffiti Cinéma. Au mois de septembre, on a décidé de parler des premières fois de l'histoire du 7e art. Et cette semaine, après deux numéros consacrés aux 3 minutes chrono, les meilleurs films courts des Invisibles du festival qui s'est tenu au mois de septembre à Orléans, eh bien on vous propose tout simplement, dans ce troisième numéro du mois de septembre, de se consacrer aux meilleurs premiers films de l'histoire, dans une émission enregistrée au Pâté Saran.
C'est magnifique.
Cette semaine, mon film préféré, c'est Alizigi qui nous parle dans cette chronique d'introduction de Parasite. Et n'oubliez pas également qu'on va lancer des jeunes artistes, ça c'est important dans l'émission. Cette semaine, c'est Jeanne Masse avec Toute Première Fois. Oui, non, mais je vois vos grands yeux, vous êtes étonnés, mais je pense sincèrement que ce morceau, qui sonne un peu à années 80, devrait, à mon avis, assez rapidement percer.
Donc, je m'appelle Alice, je suis étudiante kiné, et aujourd'hui, je vais vous parler du film Parasite. Le film de Bong Joon-ho, qui a été l'Oscar du meilleur film, notamment en 2019. Donc, ce film, c'est un drame, mais sous couvert d'une histoire un petit peu rocambolesque. Dans un décor très luxueux, une famille va emménager et c'est une famille très riche. Nous allons suivre l'histoire d'une famille beaucoup plus pauvre qui va se mettre à travailler pour eux. Progressivement, comme un parasite, ils vont rentrer dans la vie de cette famille mondaine et c'est là où l'histoire va basculer puisque les parasites qui avaient le contrôle, au bout d'un moment, ne vont plus rien contrôler du tout et l'histoire va prendre tout son sens. Alors j'adore ce film parce que c'est vraiment le centre de l'histoire, c'est la guerre des classes, la haute classe face au peuple. Et aussi vraiment un thriller tout du long avec une chute incroyable, je vous laisse le découvrir.
Merci.
Mais de rien.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha! Graffiti Cinéma.
Au cinéma comme ailleurs, tout commence par une première fois. Enfin, à moins que vous ne voyagez dans le temps juste pour ruiner ce pitch et m'embêter profondément. Premier film, long métrage, premier court, premier blockbuster, notre thème de septembre, des packs qui tâtonnent dans la pluie, cette folie de réaliser des films, encore et toujours, sans que rien n'y renonce. Bonjour et bienvenue dans une émission également de poésie, cette fois-ci, c'est cinéma et poésie, pourquoi pas un jour en tout cas. C'est l'objectif pour nous cette semaine et ce mois de parler des premières fois du cinéma. Et dans cette émission, cette semaine, on parle justement des meilleurs premiers films de l'histoire du cinéma. À nos yeux, on vous a fait une petite sélection. Alors, quelles sont les premières fois du 7e art qui ont marqué des cinéphiles? Comment caractériser un premier film? Quelle est notre sélection et sur quelle base avons-nous choisi des totems, des films doudous dans cette sélection importante? Dans cette émission, en tout cas, vous suivrez nos pas dans l'histoire, plus ou moins lointaine, avec un film incontournable quand on parle de meilleurs premiers films dans l'histoire du cinéma. Citizen Kane est un film de 1941 et accessoirement d'Orson Welles. Orson Welles qui débarque à la RKO, qui est l'immense studio de l'époque, qui est aujourd'hui devenu mythique parce qu'il s'est écroulé économiquement, il est tombé en faillite et son stock a été récupéré par beaucoup d'ayants droit après. Mais Orson Welles débarque dans le domaine du cinéma, lui qui vient du théâtre, avec un accord particulièrement béton pour un jeune de 24 ans. Il récupère le final cut sur son film, ce qui n'existe absolument pas dans l'industrie cinématographique à l'époque, et il découvre un monde du cinéma avec ce premier film absolument renversant qui obtient quasiment le statut de film culte dès sa sortie en 1941. Le film est produit en 40, il sort en 41 aux États-Unis, a énormément de succès plus ou moins critique, mais sur le tard, pas au moment de la sortie, parce qu'au moment où ce film sort, il y a très peu de rentabilité. Il sortira seulement dans les années 50 avec la reconnaissance des critiques cinéma. On parle de meilleur premier film de l'histoire et c'est peut-être un des plus emblématiques, c'est l'extrait qu'on a entendu aujourd'hui pour commencer cette émission. C'est l'ouverture de Citizen Kane, donc ce film que l'on conseille très vivement. Et évidemment, on pourra en parler comme beaucoup d'autres tout autour de la table avec moi cette semaine pour évoquer ces meilleurs premiers films de l'histoire. Eh bien, la troupe qui s'est réunie pour évoquer ces tâtonnements, plus ou moins réussi en tout cas, c'est toute la démarche de notre émission avec Juliette aujourd'hui. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Thomas également qui est avec nous. Bonsoir Thomas.
Salut.
Milan qui est avec nous. Bonsoir Milan.
Salut.
Et Nicolas qui est avec nous.
Salut.
Alors vous avez également tous des films totems que vous avez bien aimés. Deux parties aujourd'hui dans notre émission. Première partie importante parce que je voulais dans un premier rang voir si ces premiers films sont condamnés en fait à aller chercher des genres emblématiques pour pouvoir exister. La science-fiction, c'est notre première science-fiction de polar ou d'autres registres. C'est notre première partie cette semaine. Deuxième partie après la pause. Premier film deviendra grand. Est-ce que tous ces premiers films qu'on va vous évoquer ont réussi à laisser une trace dans l'histoire? Est-ce que certains sont des chefs-d'œuvre? Est-ce que certains sont des coups d'épée dans l'eau? En tout cas, on vous renvoie déjà, juste avant de commencer cette première partie, vers la liste dithyrambique qu'a créée Juliette, qu'on a partagée sur notre page Facebook, Graffiti Cinéma.
Dithyrambique.
Dithyrambique aussi. Une liste de 50 films, Juliette, que tu as conçu en soufflerie, on peut le dire. 50 meilleurs premiers films de l'histoire, en tout cas une sélection qui permet de s'y retrouver dans notre thème de la semaine sur donc ces premières tentatives. Juliette, 50 films, comment tu es ressortie de la conception de cette sélection?
Au final, on pense tous qu'il n'y en a pas tant que ça, puis plus on avance, plus on réfléchit, plus on en trouve. Alors après, ce ne sera pas tous des chefs-d'œuvre, mais ils amorcent tous quelque chose. Donc ça peut amorcer quelque chose pour un réalisateur. Ce ne sera pas forcément son meilleur film, mais ça reste un très bon film à la base. Donc voilà, je suis arrivée à une cinquantaine et je pense que demain on en trouvera d'autres et après-demain on en trouvera d'autres et voilà.
J'ai commencé avec un gros morceau parce que j'ai directement attaqué avec Citizen Kane, parce que c'est peut-être un des mastodontes dans les premiers films qui a tout de suite fait sa loi en quelque sorte.
Je sais pas si tu veux juste un mot, il y a Rosebud et puis voilà.
Rosebud, alors qui a énormément marqué parce que c'est vrai que pour la petite histoire, donc Citizen Kane raconte l'aventure d'un mania de la presse qui a inspiré, et tout le monde le savait à l'époque, de William Randolph Hearst qui possédait plusieurs médias aux États-Unis, il faisait un peu la loi, il a longtemps essayé d'empêcher la sortie du film, qui a évidemment souffert à sa sortie de ce portrait, je dirais, en filigrane. Et il est évidemment totalement lié à l'image d'Orson Welles, qui est un jeune, brillant metteur en scène de théâtre qui arrive au cinéma, qui sort tout juste du scandale de la rediffusion de cette invasion de la guerre des mondes qui avait provoqué des vagues de panique aux États-Unis. Il se remet à peine de ça, donc c'était un buzz à l'époque, on peut le dire, en 41. Bon, après, c'était un bourdonnement légèrement différent, mais il avait cette image un peu du jeune arrogant qui va être partagé par beaucoup d'autres cinéastes de notre sélection. Et Citizen Kane débarque. Alors, est-ce que vous pouvez, les amis, avoir un mot pour ce classique-là? Parce que moi, c'était très personnel. Je me dis, on doit commencer par celui-ci. Et évidemment, on doit le conseiller à nos auditeurs si vous ne l'avez pas vu. Déjà, pour Rosebud, parce que Citizen Kane, c'est une inventivité folle. Le flashback, les mises en abîme, les témoignages à plusieurs personnages. C'est un film qui, aujourd'hui, avait peut-être 60-50 ans d'avance, en tout cas.
Citizen Kane, moi je dirais que c'est un film punk à l'époque et c'est un film chiant aujourd'hui.
Allez.
Je m'explique.
Vas-y.
Citizen Kane, du coup, il a démocratisé, il a créé vraiment une façon de concevoir la création d'une histoire, une façon de monter, une façon de cadrer, etc., qui est restée en fait la façon lambda, on va dire, standard, surtout du cinéma américain. D'ailleurs, y a des théoriciens comme Sergei Eisenstein, qui lui est un réalisateur russe, qualifiera cette façon de faire de façon capitaliste en fait. Il y aurait un montage, une façon de monter capitaliste et une façon de monter communiste, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est un film qui a posé toutes les bases de comment on fait du cinéma. Et le problème du coup, c'est que quand on le voit aujourd'hui, il faut bien se remettre ça en tête. Parce que ça paraît quand même aujourd'hui avec du recul, si on le prend avec les yeux d'aujourd'hui, vraiment le film le plus lambda possible de l'univers qui réunit tous les clichés dans un seul film, mais c'est parce que c'est lui qui les a posés, ses bases en fait.
Alors c'est important de l'évoquer comme ça. Je sais pas, Nicolas, Thomas, si vous vouliez avoir aussi un mot sur Citizen Kane en complément. Thomas, peut-être là-dessus.
En complément, non, je trouve que j'aime beaucoup comment Milan en parle, quoi, pour le coup, parce qu'il y a ce côté, oui, c'est, tout le monde est fasciné par ce film, il y a ce côté culte qui est auto-alimenté en fait, dans tous les sens. Et le fait que tu le qualifies comme ça de film punk à l'époque en se disant « révolution », et puis maintenant tu le revois, tu te dis « oui, mais finalement, pourquoi je devrais revoir ce film là maintenant ?» Alors que des films contemporains le font tout aussi bien. Est-ce que c'est qu'une redite de la façon de faire d'Orson Welles au départ, ou non? Moi je continue à penser qu'il faut que ça reste passionnant à voir dans le développé de l'histoire. Ça reste toujours assez actuel et on passe un vrai bon moment de divertissement, quoi. On a envie de savoir Rosebud, on a envie de savoir ce que c'est, quoi. Là, on pourrait spoiler. On va pas le faire.
C'est vrai, pour la petite histoire, ceux qui l'ont pas vu, donc le film s'ouvre en fait hein, sur la mort donc de ce Kane qui est absolument incontournable, voilà. Et qui est un personnage imposant. Il lâche un soupir sur son lit de mort qu'une seule personne entend, Rosebud, et personne ne sait ce que ça veut dire, alors qu'il possède tous les plus grands journaux du pays. Personne décide d'enquêter, on l'envoie enquêter pour savoir ce que c'est Rosebud, et la dernière scène du film le dévoile, personne ne l'apprend. C'est le plan final du film qui dévoile ce qu'est Rosebud, et il s'agit de... Ah,
ouais, c'est ça.
Alors, il y a la planche mythique de Snoopy, où vous avez Snoopy et Charlie Parker qui se fait spoiler la fin de Rosebud, et qui a envie juste de mourir au moment où il l'apprend, mais c'est un film, comme on le disait, Milan, voilà, qui a peut-être raconté énormément de choses de Canva aujourd'hui. Le voir aujourd'hui, bah, vous nous en parlerez. En tout cas, c'est pour ça qu'on voulait en parler. C'était un premier film très 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 important, et puis important dans la carrière d'Orson Welles, parce que beaucoup qui vont être un peu médiants peut-être sur ce génie du cinéma disaient que il y avait déjà un immense sommet avec Citizen Kane. Il a eu énormément de sommets dans sa filmographie, mais c'était très très dur de se dépêtrer du sparadrap Citizen Kane.
Voilà, on a l'impression que il a tout fait d'un coup.
Voilà.
Voilà, il a tout mis d'un coup dans ce premier film, et que après, effectivement, la comparaison elle est tellement incroyable, il peut presque pas la soutenir, quoi, alors qu'il a fait des films derrière.
La soif du mal, notamment.
La soif du mal, voilà.
Parce que moi, c'est mon Orson Welles préféré, personnellement. La soif du mal, c'est un super film.
Citizen Kane, je pense que c'était vraiment important de l'ouvrir comme ça. Et moi,
on peut le trouver. Alors, oui
pardon, je t'en prie.
On peut le trouver là en version, il est sorti en 4K, qui est très impressionnant.
4 Kane.
Non, et justement, on a beau dire la 4K, elle se marie très bien avec les anciens films.
Oui, ça c'est vrai.
Très très bien, on voit beaucoup plus de netteté, beaucoup plus de brillance, on a cette impression qu'on le voit dans des meilleures conditions même.
Les noirs et blancs, ils sont magnifiés,
c'est ça.
En fait.
Et du coup, le film est plutôt abordable et très joli. Alors après, il faut passer l'aspect culte et le voir pour ce qu'il est. Regardez-le vous, et évidemment les bonus, c'est un peu turiféraire, quoi. C'est formidable, c'est incroyable, tous les plus grands critiques de cinéma sont dessus, bon voilà. Évacuez un peu ça, un peu comme Kubrick, quoi. Évacuez un peu ce côté-là et voyez les films pour ce qu'ils sont.
Et ça, d'où ça vient?
Quoi?
Ce truc-là, sur votre bras.
Ah, ça? Un tatouage, j'ai voulu le faire enlever.
Je sais ce qu'il y avait, je sais ce qui était marqué. Maman. Où t'as eu ça?
De toi à moi, c'est quand j'étais sur le cuirassé Indianapolis.
Vous étiez sur l'Indianapolis? Qu'est-ce qui s'est passé, juste?
On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian où on avait livré une bombe, celle d'Hiroshima, la bombe.
On se sent marin à la barille.
Tout à coup, un 4 mètres, vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau? À ce qui sépare la membrane dorsale de la queue. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs. Et alors, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces.
Nous sommes dans le hall du Pâté Saran. Nous sommes tout autour de la table avec l'équipe réunie pour cette troisième émission du mois de septembre. Et dans cette troisième émission, cette semaine et dans ce mois-ci, on voulait parler des meilleurs premiers films de l'histoire. En tout cas, vous faire une sélection de meilleurs premiers films dans l'histoire qui, à nos yeux, méritent en tout cas d'être évoqués dans ce thème-là. Vous avez entendu cet extrait, Les Dents de la Mer, le monologue mythique de la scène de l'Indianapolis. Et c'est Robert Shaw qui avait réécrit en grande partie ce monologue qui avait été proposé au script. Il a vu la latitude évidemment de Steven Spielberg pour le faire, qui va transcender cette scène-là. Alors pourquoi on en parle? Parce que cette scène-là, aujourd'hui, si on vous dit que c'est un blockbuster, vous allez vous dire mais c'est incroyable, parce qu'on a une logique évidemment de faire les blockbusters qui est totalement différente que dans les années 70. Et pourtant, Les Dents de la Mer, c'est le premier qui mérite de porter ce nom-là. Nicolas, tu voulais nous le présenter de cette façon-là, parce que pour Spielberg, c'est son deuxième film, Duel, évidemment, on va en parler en filigrane, mais Les Dents de la Mer, c'est une première fois essentielle pour l'histoire du cinéma.
Tout à fait. Alors, c'est son deuxième film. Oui et non. Il y a un peu de polémique là-dessus pour savoir lequel est son premier ou son deuxième. Mais en tout cas, oui, on a coutume de dire que c'est le premier blockbuster. Pourquoi? Alors, à l'époque, il y avait déjà des films avec des gros budgets. C'était principalement des péplums. On se rappelle des films de Cécile B2000, Ben-Hur, etc. Mais là, dans les années 70, en fait, les studios avaient pour volonté de vraiment marquer le coup, faire taper fort, et notamment dans le budget marketing et de distribution. C'est-à-dire qu'on ne se limitait pas seulement à une distribution dans les grandes villes, mais on voulait que simultanément le film sorte partout aux États-Unis, dans plusieurs centaines de salles, avec un accompagnement marketing à la hauteur. Et Dents de la mer a été, Jaws en anglais, a été le premier film, en tout cas on a coutume de dire que c'est le premier film, qui est sorti en 1975 et qui a fait un carton terrible, monstrueux. Il est sorti au mois de juin, donc à un moment un peu avant l'été, ce qui lui a donné un petit peu ce côté un peu film estival. En plus, il se déroule en station balnéaire, etc., au moment des vacances. Et il était accompagné de tout un merchandising, de goodies, de poids marketing derrière. Il a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent à l'époque. C'était le film le plus rentable à l'époque. On est quand même deux ans avant Star Wars, hein, mais déjà, c'était vraiment le premier film populaire qui rapporte autant. Il a aussi contribué à lancer la carrière de Spielberg, puisque il avait fait donc Duel, qui est considéré comme un téléfilm. Il avait fait Firelight, qu'on ne sait pas trop si c'est un film à inclure dans sa carrière ou pas, dans sa filmographie ou pas. Il allait enchaîner ensuite avec d'autres films, et en ayant acquis une certaine crédibilité sur des films à gros budget, puisqu'on lui devra après E.T., Les Aventures de l'Arche Perdue, Rencontre du Troisième Type. Enfin voilà, il va être un peu catalogué dans ce genre de films, mais surtout il va ouvrir à la voie. Alors je vais pas vous faire la liste de tous les blockbusters qui sont sortis depuis, c'est colossal, on les connaît tous, que ce soit du Marvel, du Harry Potter, du Star Wars, enfin voilà, ça serait complètement laborieux, inutile de les citer.
Nous, on a une époque où on peut le dire, le blockbuster, c'est plus une catégorie de films, c'est devenu une esthétique.
Exactement.
Et c'est vrai qu'en grande partie, ça vient de ces films-là. On peut, évidemment, te pour laisser prolonger, faire le parallèle tout de suite entre Spielberg et Orson Welles, on disait tout à l'heure, hein, du jeune arrogant qui débarque, qui est bourré de talent, qui doit faire sa place. Bon, alors pour Orson Welles, évidemment, il est l'école du théâtre, et puis pour Spielberg, l'enfant de la télé, quoi. C'est la génération suivante. Il a fait des Columbos, hein, on peut le dire, pour faire une dédicace à l'ami Mathieu, qui sont très importants. Et il y a déjà ce découpage qui est très présent à la télévision, où il fait déjà un découpage cinéma et qui tranche vivement avec ce que les télévisions proposaient à l'époque. Et c'est pour ça que ce personnage qui est aussi Spielberg fait partie de l'histoire de Des Dents de la Mer, évidemment.
Oui, oui, tout à fait. Et en fait, alors, au départ, dans les années 70-80, il y avait assez peu de blockbusters, c'était surtout à la période estivale que ce genre de film sortait, toujours dans l'optique d'engrancher un maximum d'argent très vite, surtout l'été, avec une distribution encore une fois massive et accompagnée par un gros support marketing. Et puis après, on a été abreuvé de blockbusters tout au long de l'année, depuis les années 80. Pour terminer sur ce sujet, je pense que vous savez tous que depuis maintenant quelques années, depuis la fin des années 2010, en gros, le blockbuster a moins la cote, il rapporte moins qu'un temps. Alors ça reste quand même des sommes faramineuses, mais pas autant que ce qui était attendu. Donc il y a plusieurs explications à ça. Il y a peut-être une lassitude du public. Il y a aussi le fait qu'il y a la surabondance. Nous, on a grandi dans les années 80. Quand il y avait un tel film avec des effets spéciaux, avec du grand spectacle, bon, on en avait qu'un ou deux par an. On était impatients d'avoir la suite, de savoir qu'il y aura un prochain Indiana Jones, qu'il y aura un prochain Superman. Maintenant, on a tout de suite, tout très vite, en surabondance. Donc il y a peut-être aussi cet effet qui fait que maintenant, on devient un peu blasé, peut-être.
Et c'est tout l'intérêt, parce qu'il y a justement un prophète du cinéma qui a annoncé la mort du blockbuster, et en l'occurrence c'était Steven Spielberg. Donc il se posait cette question là parce que lui, c'est une génération aussi qui a vu mourir le western, et ça, si à l'occasion on en parle, à mourir évidemment c'est une image, mais en tout cas reculer dans la place vedette des films qui attirent énormément de monde, et cette question est tout à fait légitime. Alors pourquoi dans cette première partie? Parce qu'on se demande si les premiers films, ils sont obligés d'habiter un genre, et c'est vrai que Spielberg, il commence par habiter ces genres là hein. Lui, enfant de la télé, il va aller chercher, donc là, pour le coup, le registre du blockbuster, il l'a créé, mais il est en réaction dans les années 70. Il ne faut pas oublier qu'on a fait une émission à la fois sur les films de requins, mais également sur la Hammer. Et le cinéma de la Hammer, c'est le petit studio britannique qui a failli couler Hollywood, parce que en pleine répercussion du Kodály, ce qui a marqué beaucoup de cinéastes, et même après la libération du Kodály, il y avait beaucoup de cinéastes qui continuaient à faire comme le Kodály, parce qu'ils avaient été marqués par cette censure très, très, très puritaine aux États-Unis. Eh bien, les outrances de la Hammer avaient failli couler Hollywood. Les grands studios hollywoodiens vraiment étaient complètement paniqués par rapport à ça, et Les Dents de la Mer, c'est une des meilleures réponses à ce défi que les Européens avaient posé techniquement et graphiquement à ces écoles-là.
Et puis en plus, les Dents de la Mer, il y a cette idée que c'est les premiers producteurs, réalisateurs, quelque part. Donc c'est très nouveau pour les Américains de se dire qu'on commence à maîtriser une grande partie de l'ensemble du film. Avant, on était réalisateur de studio, on était engagé par le studio pour faire un nombre de films, les acteurs de la même façon. Là, on a quelqu'un qui court-circuite les choses et qui dit bah, « moi, je veux produire mes propres choses, je veux avoir la main sur ce qui va sortir ».
Ciné Lumet réalise en 1957 son premier film avant de devenir le réalisateur légendaire que tous les cinéphiles connaissent, 12 ans en colère avec la vedette Henri Fonda. Il raconte les tribulations d'un 12 jurés qui décident de débattre sur la condamnation à mort d'un homme que des preuves apparemment accablantes accusent. Un homme seul décide de progressivement discuter de ce verdict et toute l'histoire de ce huis clos devenu légendaire est devenu un des meilleurs premiers films de l'histoire du cinéma.
C'est presque pas finalement un film de procès puisque c'est la délibération à laquelle on assiste, c'est pas au procès en lui-même. Ils refont effectivement le procès au fur et à mesure du film, enfin les éléments en tout cas qui sont intervenus dans le procès, mais c'est la délibération. Ce qui est intéressant par rapport à Henri Fonda, ce que tu disais, c'est que c'est Henri Fonda qui est allé chercher Sidney Lumet. Donc je ne sais pas s'il l'a écrasé finalement.
Mais il pouvait le faire. Il pouvait de par son aura, voilà.
Sidney Lumet, c'était un réalisateur principalement de TV et pas mal en direct en fait. Et ce qui est, je pense, enfin à mon sens, 12 hommes aux colères, c'est un classique du cinéma d'abord, mais c'est aussi une leçon de cinéma au niveau de sa mise en scène. Alors c'est une pièce de théâtre à l'origine de 1954 et le film est de 1957. Le génie ici, c'est que le scénariste, c'est l'auteur de la pièce de théâtre, donc les dialogues sont ciselés, les scènes sont ciselées. Ils font un vote directement, voilà. Dès le début des délibérations, 11, donc sur les 12 hommes.
Ils décident de le condamner avant parce qu'ils veulent rentrer chez eux, ils n'ont pas que ça à faire, tout la cale. Et puis il y a le personnage incarné par Henri Fonda qui décide, oh les gars, non, on ne peut pas aller aussi vite que ça.
Voilà, c'est la vie d'un homme. C'est la vie d'un homme, on ne peut pas aller aussi vite que ça. Et puis moi j'ai un doute.
Voilà.
Alors il n'essaye pas de retourner les autres au final.
Il est convaincu, mais je veux dire, pas par la violence, mais il va évoquer des doutes qui petit à petit vont créer une autre...
En fait voilà, chacun va se forger le doute et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse finalement énormément aux personnages alors qu'on sait très peu de choses sur eux. D'ailleurs on ne sait même pas leur nom puisqu'ils sont appelés juré 1, juré 2. Donc on est dans une seule pièce, à part au début on a un magnifique plan séquence et à la fin voilà où il y a 5 minutes dans le film où on n'est pas dans une seule pièce. Justement c'est joué à fond là-dessus parce que ça s'intensifie tout du long. Pour s'intensifier tout du long, qu'est-ce qu'il fait Sidney Lumet? Il a le génie de les filmer. Plus on avance dans le film, plus on avance des personnages, de leur visage, plus on avance vers les gros plans. Comme c'est censé être le jour le plus chaud de l'année, eh bien, les personnages transpirent de plus en plus. Au début, le ventilateur ne marche pas, il y a un orage, ils sont obligés de fermer la fenêtre, donc ils sont super énervés. Et nous, on est énervés avec eux. Tout en alternant des petites séquences où justement ils parlent un peu de ce qu'ils sont, de leur métier et tout ça, qui justifie en plus leur changement de point de vue. Et voilà, la grande question après du film, c'est est-ce qu'il est possible de rendre une décision véritablement juste, c'est-à-dire sans aucune considération personnelle. Et on voit bien que là, c'est pas le cas, parce que c'est des hommes qui viennent de différentes classes sociales, ils sont d'origines différentes, avec des vécus différents. Donc il y en a un, il travaille dans la pub, donc lui, il change d'avis en fonction du contexte ambiant, quoi. Il y en a un, il est courtier, donc il veut qu'on lui prouve par A plus B que c'est ça, et voilà.
Donc, il va nous rester 5 minutes, mais c'est vrai que ce film-là, on le conseille évidemment très vivement, voilà. Quelles que soient les générations, parce que c'est vraiment très enrichissant.
Il est en location sur Prime.
Voilà, vous le trouvez partout et c'est très important.
Il est très beau.
Mais pour répondre à notre débat, c'est vrai que là, on le disait, le 12 ans en colère, on s'aperçoit quand tu nous le décris que Sidney Lumet a toujours été très 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 progressiste dans ses films, ça va de soi. Mais quelle que soit l'idéologie, on n'est pas là en train de dire que Sidney Lumet aurait voté Joe Biden, c'est pas la démarche. Mais c'est de se dire qu'il s'est toujours emparé des sujets sociétaux aux États-Unis, en avance sur son temps. Et c'est là finalement où ce premier film, il a un peu l'esprit adolescent qu'on relève enlevé avec Orson Welles, avec Spielberg, c'est d'être précurseur. Oui. Et c'est vraiment un réalisateur qui a toujours, jusqu'à Un après-midi de chien, été très 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 en avance sur les thèmes sociétaux des États-Unis. Et c'est c'était très important en tout cas de l'évoquer celui-ci pour voir que les genres qui permettent d'habiter un film et de le mettre en avant et de lui apporter une exposition, eh bien, ils changent évidemment. Hein. Aujourd'hui, on serait plutôt dans le film de zombies, de la science-fiction, dans le polar. À l'époque, c'était l'emballage, en tout cas l'habillage, l'écrin du film de Tribunal. Alors Milan, Thomas, il va nous rester, Nicolas, 3-4 minutes pour évoquer des films qui justement profitaient d'un genre pour obtenir une exposition. Et c'est vrai que comme registre, on pourrait citer, alors Nicolas, on en parlait quand on préparait l'émission, on parlait du premier de Peter Jackson, par exemple Bad Taste en 87, qui est un titre québécois relativement surprenant, figurez-vous, qui s'appelle Dans le cul au Québec. Ça m'a toujours marqué. En préparant l'émission, je me suis aperçu de ça, je me suis dit, mais comment on peut appeler un film comme ça? Les Québécois avaient complètement craqué.
Ils ont tendance à traduire littéralement les titres.
Donc oui, donc là.
Peut-être parce qu'il y a un mouton qui se prend une roquette.
Ah, tu veux dire que
du mauvais côté, quoi.
Voilà. Okay, d'accord. 36 000 dollars de budget néo-zélandais. Alors, je connais pas la convertibilité du dollar néo-zélandais de l'époque, mais c'est 25 000 dollars à peu près aux États-Unis. Et Bad Taste profite, lui, de l'écrin du film d'extraterrestre. C'est un film qui raconte une invasion dans un village complètement paumé. Il est sélectionné à Cannes et lance la carrière de Peter Jackson, qui à l'époque est quasiment au chômage quand il fait ça, parce qu'il tourne avec des collègues de boulot. Et ce film, ce premier film, profite évidemment de cet écrin-là. Dans cette première partie sur les films qui vont envahir un genre, Milan, t'en avais quelques-uns aussi qui te ressortaient à l'esprit.
Moi, ouais, je voulais parler d'un film qui a fait l'inverse, en fait. Je voulais parler d'un film
qui a pris... T'es en train de fumer pitch, là.
Ouais, tout à fait. Je voulais parler d'un film qui a pris quelque chose qui n'était pas à la mode dans un pays où c'était pas à la mode et qui a fait un peu n'importe quoi, mais qui l'a fait avec succès.
Oui, bien sûr.
Enfin, avec génie, pas avec succès. Je voulais parler d'un film qui est un film muet, en noir et blanc, de post-apo, de SF, réalisé par Luc Besson. C'est le premier film de Luc Besson, c'est Le Dernier Combat. C'est un film français de SF post-apo qui est complètement muet, entièrement en noir et blanc.
Ah là, il y a tous les potes
et
de Luc Besson
vraiment,
qui sont là.
Ouais. Il a mis tout ce qui ne se faisait pas dans le cinéma français, oui, dans le même panier, et il l'a fait. Et c'est un film qui est vraiment, vraiment, qui a une esthétique très particulière et qui a vraiment un génie de l'esthétique qui est génial. Et ça aurait été super qu'il garde ce talent au lieu de faire Valérian. Voilà.
En plus, il a été très peu, oui, peu médiatisé, diffusé. Enfin voilà, c'est quand même un film de genre, comme l'a dit Milan. Le post-apocalyptique n'a jamais été très à la mode en France. Il y a des films magnifiques. Je pense à Malville notamment. Mais oui, c'est pas quelque chose qui était publicité à l'époque. Et Milan l'a justement dit, c'était très très audacieux de se lancer sur un thème comme celui-ci. Ouais.
Les films qui habitent le genre, en tout cas qui ont besoin d'un genre pour exister ou se faire connaître, on en a évoqué quelques-uns dans l'histoire et vous comprenez qu'avec un thème comme ça, on pourrait faire 25 heures d'émission, on y reviendra évidemment, mais on vous rappelle, juste avant la pause musicale, donc Juliette, hein, nous a concocté une liste justement pour nous qu'on fasse nos choix et on vous l'a fournie volontiers, on vous l'a mise sur la page Facebook de l'émission Graffiti Cinéma. Juste après la pause musicale, c'est toute première fois de Jeanne Masse. Je suis désolé. Je cherchais une pause. Non, mais j'étais obligé de vous en parler.
J'étais sûr.
Non,
j'étais sûr de ça.
Non, mais j'étais obligé. Parce que là, je suis obligé d'en parler devant nos auditeurs. Je cherchais un morceau qui est OK la première fois. Non, on ne peut pas passer à côté de Jeanne Masse, quoi. C'est comme Citizen Kane. Jeanne Masse, on passe pas à côté. Donc, on vous la propose. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Pourquoi ces mots ?
de souffrance.
Nous sommes toujours dans le hall du Pâté Saron. Vous écoutez Graffiti Cinéma après avoir écouté Jeanne Mas, la chanson qui a créé le mot toutoute dans le dictionnaire. Toute première fois, toutoute, première fois. Voilà, c'est rentré dans le dictionnaire juste après toute.
Et qui est beaucoup écouté chez les toiletteurs.
Les premiers films de cinéastes incarnent toujours des ruptures. Et évidemment, ils sont obligés un peu, en quelque sorte, de tuer le père de manière très symbolique avec cette métaphore très connue chez tous les psys. Tuer le père, comment on le fait? Le meilleur exemple, c'est La Nouvelle Vague. En France, évidemment, on ne peut pas passer, faire un thème sur les premiers films d'histoire du cinéma sans parler de La Nouvelle Vague. Hein. Ça paraît assez incontournable. Alors, en quatre films que je vous présente, parce que Milan, je le sens très, très, très remonté là-dessus, dans quatre films, je voulais distinguer en fait quatre cinéastes qui, dans les années 50-55, vous avez La Pointe Courte, le premier film d'Agnès Varda, qui, lui, fait la transcendance de tourner en province une femme, qui très peu réalise déjà à cette époque-là, malheureusement, et en plus dans une province relativement lointaine puisqu'elle va tourner à 7. Ensuite vous avez en 59 Les Dragueurs de Jean-Pierre Mocky. Je l'ai mis là parce qu'il a toujours râlé de pas être il a toujours râlé tout court, mais il a toujours râlé de pas avoir été embarqué dans la logique de La Nouvelle Vague alors qu'il était partie constituante absolue. Les Dragueurs, c'est un film notamment avec Charles Aznavour qui est absolument génial à revoir aujourd'hui, puis il a évidemment totalement intronisé cette expression de drague aujourd'hui dans le langage français. Les 400 coups évidemment de François Truffaut en 59, la même année, et puis À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960.
As-tu déjà couché avec une fille?
Non, jamais, mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors, ils m'avaient dit, c'était vachement envie, t'as qu'à aller rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Alors, moi, j'y suis allée, et puis, j'ai demandé à des filles, et je me suis fait vachement engueuler. Alors, j'ai eu la trouille, et puis, je suis partie.
Ils vont filmer dans la rue. À bout de souffle, on voit le vieux Paris. La Pointe Courte en 55, Agnès Varda va filmer une province. On voit la vraie ville, on voit les vrais gens. Vous avez évidemment Les 400 coups pour lesquels on n'en parle pas. On voit une enfance qui va se passer dans des quartiers relativement défavorisés. J'aurais pu aller jusqu'à Maurice Pialat pour ces films-là, mais c'est vrai que la première rupture, c'est de tuer les scénaristes. Alors, très symboliquement, tuer les scénaristes de la génération précédente, mais également d'ouvrir complètement les barrières du cinéma français. Évidemment, les révolutions techniques de l'époque avec la miniaturisation des caméras aident un petit peu, hein, parce que c'est bien d'avoir un cadreur qui porte pas une caméra de 800 kg. En général, c'est plus pratique pour faire des beaux travelling dans la rue comme à la fin de 400 coups. Et À bout de souffle, dont tu voulais nous parler, Milan, c'est, je dirais, un gros coup de poing dans toute cette industrie française, au bon sens du terme, parce que là, on fracasse une porte qu'on refermera plus jamais.
Ouais, À bout de souffle, c'est un film qui est assez incroyable et qui, de toute façon, est étudié et dont vous entendrez forcément parler si vous vous intéressez à un moment au cinéma, parce que c'est le film qui a pris les codes dont on parlait tout à l'heure, Orson Welles a posé. Il a pris les codes, voilà, et il leur a mis un gros chassé en pleine tête, en fait. Et surtout dans le montage, quoi. Et ça, c'est génial. Et c'est un film punk, on peut le redire. Est-ce qu'on peut le redire?
Je vais me demander, est-ce qu'il va faire une phrase sans punk? Alors, c'est vrai que punk, vous pouvez avoir la sensation qu'on utilise un peu comme un mot valise, mais il y a une vraie liberté absolue. Hein, parce que Godard, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas un technicien. C'est vraiment l'artiste tel qu'on l'a caricaturé dans beaucoup d'imaginaires, en tout cas en France. C'est quelqu'un qui va écrire, qui va théoriser le cinéma.
Alors, pour le coup, qui va écrire, oui, parce qu'il était critique avant.
Voilà,
mais sur ce film-là, c'est un des seuls films qu'il n'a pas écrit. Le scénario est de François Truffaut. Du coup, ce qui est bien, enfin, ce qui est intéressant dans la Nouvelle Vague, c'est aussi, il y a ce truc de petits groupes, un peu comme le Nouvel Hollywood. Il y a un groupe de réalisateurs qui se parlent, qui s'échangent et qui créent ensemble, en fait, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose que va beaucoup garder Godard, le fait de créer ensemble. Et c'est quelque chose, du coup, qu'on ressent dès son premier film, parce qu'après, il va créer des mouvements cinématographiques qui ont comme but, justement, de créer en groupe. Et voilà, donc c'est vraiment un film qui pose les bases d'un style qu'est la Nouvelle Vague, parce que la Nouvelle Vague, c'est aussi une esthétique après, et qui va poser ces bases-là et qui est hyper intéressant.
Alors, la Nouvelle Vague, c'est pas seulement un mouvement pour le cinéma français. On va voir avec les autres films qu'on va évoquer dans cette deuxième partie que, évidemment, c'était incontournable de toute façon avec la révolution technique du cinéma d'amener une révolution théorique et, je dirais, visuelle, en tout cas, dans tous les cinémas européens. Mais ça commence en France avec ces jeunes critiques qui décident de faire du cinéma et de plus seulement de les critiquer. Notamment les vieux scripts de Jean Orange, etc., qui étaient mis complètement de côté parce qu'ils avaient une façon de raconter des films qu'ils avaient fait avec Gabin et toute cette génération-là, qu'on ne faisait plus, en tout cas, on n'a plus voulu faire pendant quelques années. Alors, il y a eu des bons, des mauvais côtés, il y en a qui ont été exclus un peu de ce mouvement, qui est en fait une construction intellectuelle qui a un peu mis sur le côté pas mal de monde, hein. Alors, notamment Jean-Pierre Mocky, hein, je voulais absolument en parler de là parce que Jean-Pierre Mocky s'est toujours revendiqué de ce mouvement-là, d'être totalement libre et indépendant. Il a toujours été un réalisateur de la Nouvelle Vague, il faut toujours aujourd'hui l'inclure dans ce mouvement-là, parce qu'on voit même chronologiquement qu'il était très important là-dessus. Il a vraiment incarné les ruptures. Jean-Pierre Mocky, c'est aussi un personnage à l'image de Godard qui va faire les films de papa, qui va souvent être en deuxième équipe ou en assistant réalisateur, qui va souvent avoir les bonnes idées, et puis quand il va avoir les coups des franches. Cette question n'est pas maîtrisée. Quand il va avoir les coups des franches, il va réaliser donc des courts-métrages, évidemment, mais Les Dragueurs, donc son premier long-métrage en 59, où là on découvre pareil, c'est un trésor patrimonial, hein, parce qu'on découvre le vieux Paris, qu'on va voir aussi avec le deuxième film de d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. C'est vraiment des films où on se dit, on filme ce qu'on trouvait absolument pas intéressant auparavant, les rues. Les gens, on va se poser à hauteur d'humain. Aujourd'hui, ça apparaît totalement banal, mais c'est vrai que cette rupture-là, qui est très adolescente dans un sens, parce qu'il y a énormément de professionnels qui sont mis sur le côté par cette génération de cinéastes, ils en ont souffert. Vous aviez notamment Bertrand Tavernier qui a récupéré beaucoup de ces personnes-là pour retravailler avec eux, mais ils ont fait beaucoup de mal inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire leur cinéma et ils ont, métaphoriquement, comme je disais tout à l'heure, tué le père. Et c'est cette rupture-là qui est aussi très importante dans ces films-là, parce qu'il laisse évidemment une trace très importante. The Bridge of Death. Oh, great. Look. There's the old man from scene 24. What is he doing here? He is the keeper of the Bridge of Death. On vient d'écouter un extrait de Monty Python, Sacré Graal. Alors, on dirait qu'on n'y pense pas tout le temps quand on pense au premier film, Nicolas, mais Monty Python, on a l'impression finalement qu'il n'y a pas de début, quoi. Parce que je pense au Monty Python, on se dit, bah, c'est une espèce de grand nuage d'humour complètement dingue qui a renversé la façon de faire des blagues dans les années 70. Et c'est vrai que le premier film des Monty Python, qui est Sacré Graal, bah, il vient tout simplement renverser l'art d'écrire, tout simplement. Il vient apporter en tout cas une nouvelle façon de faire, mais ce côté complètement loufoque qui va être intronisé dès Sacré Graal, avec notamment quand même, là, vous avez des chevaliers qui viennent combattre un monstre qui est incarné par un lapin blanc. Voilà, bon, c'est assez déstabilisant qu'on trouve la première fois, mais quand on est ouvert, c'est absolument une expérience impossible à raconter, en tout cas qu'on aurait envie de revivre pour la première fois, pour le coup.
Oui, tout à fait. Et c'est à l'époque, c'est un ovni, hein. D'abord parce que les Monty Python sont peu connus en dehors de l'Angleterre. Ils ont un humour qui est très difficilement transposable outre-Manche.
Je peux citer un exemple. Je me permets juste de piquer 30 secondes pour citer un exemple de l'humour complètement dingue des Monty Python. Moi, je me rappelle de l'édition DVD de Sacré Graal qui était sortie pour l'anniversaire donc des 20 ans. Ils avaient proposé un menu chapitrage pour les malentendants au DVD et vous aviez quelqu'un qui vous disait les menus forts.
Ouais.
Voilà, vous appuyez, il disait VO.
Qui est très fort dans les menus, ouais.
C'était pour les malentendants. Vous aviez aussi une version des sous-titres, le Cid de Corneille. Donc vous aviez les sous-titres du Cid qui s'affichaient en même temps que le film. Ça n'avait aucun sens.
Non, mais c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est le nonsense en anglais. Et quand il se lance dans ce premier film qui est un peu un film rock'n'roll dans tous les sens du terme, puisque de toute façon, je crois que c'est des membres de Pink Floyd, Led Zeppelin, George Harrison qui cofinancent ce film. Juste pour le plaisir, je crois que George Harrison avait répondu, c'était juste pour le plaisir de le voir, en fait. et donc, bah, les six Monty Python se lancent dans ce projet un peu farfelu, qui est en fait une succession de sketchs qui reprend parfois des choses qu'ils avaient fait dans le Flying Circus. Et bah, c'est un film qui finit pas vraiment, en fait, comme beaucoup de leurs sketchs, c'est-à-dire qu'ils se préoccupaient pas de comment terminer un film, comment terminer une histoire. Donc on va pas divulguer.
On n'est pas loin de Godard. Hein, voilà. On a la structure du récit qui est complètement explosée, les règles d'écriture. On s'en fout complètement, quoi.
Oui, puis on prend le parti, par exemple, pour faute de budget, les chevaliers n'ont pas de vrais chevaux. Peu importe, on prend quelqu'un qui se balade avec une paire de noix de coco et qui imite le bruit des sabots sur le sol. On se prend pas la tête. Enfin voilà, c'est les Monty Python jouent chacun plusieurs rôles. Alors évidemment, certains ressortent un peu plus que d'autres. Mais voilà, ouais, c'est une première expérience qui est vécue un peu comme étant une colonie de vacances. On va s'amuser, on va faire les fous, et qui va être culte, quoi, qui va marquer leur carrière. Après, ils vont enchaîner avec un autre film qui est
David Bryan.
David Bryan, tout à fait, qui lui aussi est tout aussi déconnant. Et puis après, ça va se tasser, parce que je crois que c'est Le Sens de la Vie, leur dernier film en commun. Et puis bon, ils vont splitter, ils vont chacun avoir des expériences de leur côté. Évidemment, Terry Gilliam, c'est encore un autre sujet, on pourrait y consacrer une émission.
C'est en projet d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà. Là, dans cette partie, on voit les films qui ont été très influents dans un sens. Mais là, on voit que les ruptures qu'apportent scénaristiques et visuelles tous ces films-là, et les Monty Python, c'est évident que cet humour-là, aujourd'hui, qui est quand même une large partie de l'humour tel qu'on le partage, tel qu'on le conçoit, bah, les Monty Python, évidemment, c'est les papas de tout ça.
Ah bah oui, sans les Monty Python, on n'aurait pas eu Les Nuls, on n'aurait probablement pas eu Kaamelott aussi. Enfin, voilà,
Mais c'est le passeport pour aller là chez vous, oser, soyez fous.
Oui, ouais, y a vraiment l'idée de se dire, bah, on n'est pas obligé d'avoir une imagination qui est dans un carcan, quoi. Vous pouvez vous laisser libre cours total, hein, Milan.
C'est pour dire que ça a effectivement engendré beaucoup de choses, et je remarque aussi que les grandes comédies, vraiment les très grandes comédies qui ont beaucoup marqué, sont beaucoup de premiers films, en fait. Parce qu'on a les Monty Python, mais on a les As aussi, parce que Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est leur premier film en tant que réalisateur. Et c'est aussi un film qui va complètement changer l'humour, en fait.
Mmh, c'est vrai. Thomas, sur ces changements de l'humour, toi qui es très sensible à l'humour en général.
J'adore l'humour.
J'adore rire.
Merci.
J'aime rire. C'est ça.
Non, mais c'est...
Les Monty Python, c'était aussi l'idée qu'il y avait l'idée de transmédia. Ils viennent de la télé. Vraiment. Ils viennent de la télé, ils font du théâtre. Et cette idée de dire, bah, on ne va pas s'interdire, on va investir d'autres médias, on va y aller. Comme si c'était quelque chose de nouveau, de maintenant. En regardant maintenant, en se disant, ah ouais, chaque comique maintenant veut faire son film. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas une mode, quoi. Tout le monde veut se dire que finalement le cinéma devient une sorte de graal à atteindre, finalement, pour le coup, en se disant, bah oui, il est sorti au cinéma, ça y est, je suis installé, quoi. J'ai réussi, quoi.
J'ai réussi ma vie. Moi, je voudrais maintenant qu'on essaie un peu de gratter pendant quelques minutes ceux justement qui ont peut-être été un peu des effets de mode, pas des coups d'épée dans l'eau, parce qu'on va pas manquer de respect au film non plus, mais qui ont eu des effets de mode très prononcés. Qui ont obtenu le statut de film culte, mais qui n'ont pas forcément apporté, je dirais, des changements dans la façon de faire. Je voudrais parler, moi, du cas Reservoir Dogs. Parce que Reservoir Dogs, donc de Quentin Tarantino, 92, évidemment, il y a l'effet de mode, c'est un des films indépendants qui a le mieux marché, qui est rentré dans la liste des 100 films à voir avant de mourir d'énormément de cinéastes. On va pas l'enlever, c'est un très bon polar, c'est un très bon film, c'est une façon à raconter qui était vraiment importante, parce que là on parle d'un braquage, et on va le dire, hein, un braquage qu'on ne filme pas, qui va être raconté par ses protagonistes, un braquage qui a complètement échoué, et les principaux protagonistes se retrouvent après le braquage et racontent chacun leur version, sachant qu'il y a parmi eux un flic infiltré. Voilà. On va pas forcément aller beaucoup plus loin que ça, c'est un film qui est très connu, qui a été un des plus vus de l'histoire peut-être, mais Reservoir Dogs, je voulais en parler dans cet aspect-là pendant quelques minutes, sur le fait que dans un sens, il n'a pas bouleversé la façon de raconter le cinéma. C'était juste, par contre, intéressant de voir ces personnages-là filmés d'un autre angle. Mais il n'y a pas eu de révolution fondamentale comme celle-ci, comme à l'image de ce qu'on a pu voir avec les films qu'on a évoqués précédemment. Est-ce que vous avez d'autres films qui, pour vous, des premiers films, ont été importants, mais vous avez ressenti quand même qu'il y avait, on manquait un peu, peut-être, je dirais... d'ambition ou de costume, en tout cas d'avoir un costume assez grand pour arriver à être influent comme ce qu'on avait juste avant.
Moi, je, maintenant que tu parles de ça, je vais dire, je pense qu'on peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, je suis d'accord avec moi-même déjà.
C'est déjà ça.
Pas mal. Je dirais District 9.
Ah, District 9 de Neil Blanc.
Voilà. Ah, ça fait plaisir, tu es d'accord.
Alors, District 9, bon, alors, le pitch en deux secondes, hein, ouais. Ça raconte une invasion extraterrestre dans un quartier, un bidonville.
C'est pas l'invasion, justement, ils sont déjà installés.
Oui, ils sont installés, mais bon, alors, oui. je fais court. Hein. Et, une invasion dans un township donc, en Afrique du Sud, donc ce qui est intéressant, c'est que ça se passe, on voit des nouveaux paysages urbains, ça se passe pas.
Mais voilà, c'est ça le l'intérêt presque du film, c'est ça. Sa façon de filmer très. Très serré, très documentaire, ça bouge de partout, on a l'impression d'être sur un reportage de guerre, ce genre de choses, comme si voilà, un journaliste allait dans un camp humanitaire filmer un petit peu ce qui est l'envers du décor. Et c'est ça le principal atout du film, parce que finalement ça reste qu'un film un film de SF plutôt bien troussé, on sent qu'il a les sous et il a... Je sais pas comment il a produit ça, il a la carte, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui lui ont fait confiance derrière en lui disant « Ouais, on croit en ton truc, on va mettre les sous, ça va sûrement marcher. » Mais pour le coup, j'ai l'impression que son film, je ne veux pas dénigrer, comment il s'appelle ? Neil Blomkamp,
pardon.
Oui. C'est ça.
J'ai l'impression qu'il a fait son acmé, quoi. C'est
ça correspond à la crise d'adolescent.
Ouais, c'est ça. Il a fait son acmé. Il a dit c'est ça qu'il faut faire. Je le fais d'une certaine façon qui va coller à l'époque, mais qui est suffisamment subversif ouais. pour qu'on puisse se dire ça va marcher. Et derrière, eh ben voilà, l'enchaînement est pas.
Il a pas validé.
Il a pas validé. Voilà, c'est ça. En gros, il a pas validé quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il s'est perdu après sur Elysium.
Voilà. Ouais, qui est un peu une sorte de redite.
Chappie.
À Chappie, ouais, c'est pas chapeau. Hein.
C'est la suite.
Franchement, non, c'est pas cher.
Ouais. Non, c'est clair. Il devait faire la suite d'ailleurs, c'est clair. Alors, dans cette partie-là, bon, on essaie un peu d'égratigner certains pour voir si parfois des films qui sont devenus cultes, au bon sens du terme, ont eu l'impact qu'on a pu imaginer.
Façon, ça reste très très cool à regarder. Ah, hein.
On n'est pas en train de dire que c'est
un super divertissement, c'est vraiment bien.
On n'est pas en train de dire que c'est des mauvais films. On essaie juste de mesurer les films qui ont profité d'un effet de mode et qui ont, à l'image de ce qu'on avait fait dans les années 50, avaient apporté des ruptures, mais peut-être beaucoup plus limitées dans le temps de ce qu'on avait pu voir. Des films en tout cas qui avaient été rapidement récupérés hein, et qui étaient au départ à la marge, parce que là on raconte un peu quand même dans cette histoire de premier film, on raconte beaucoup d'histoires de marge du cinéma, hein, parce que quand on parle de la nouvelle vague, c'était inimaginable de faire des films comme ils le faisaient, c'était très marginal. Et là, moi ce que je voulais apporter avec ces deux exemples, District 9 et The Reservoir Dogs, c'est des films qui très rapidement finalement ont été récupérés et sont devenus mainstream, le fameux mainstream que beaucoup d'artistes craignent absolument. Et en tout cas, cela qui ne m'empêche pas de faire des bons films d'ailleurs, mais qui montre que peut-être après, dans une logique d'années 90-2000, on voit de plus en plus de films, les moyens de distribution et de diffusion sont beaucoup plus techniquement accessibles évidemment, bah, les marges sont beaucoup plus vite récupérées, ça va de soi. Et donc du coup, les effets dans le temps sont plus limités. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands through the phone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I want. Alors par contre, pour terminer cette évocation des premiers films, Juliette, tu nous as fait un classement très important. Là, je te mets une énorme pression sur la tête. C'est en tout cas, tu nous as fait une petite sélection des premiers meilleurs premiers films dont tu aimerais, donc qu'on aimerait voir la suite en tout cas, hein, qu'on aimerait bien évoquer. Alors,
ah oui, les films très très récents dont le réalisateur, bah pour l'instant, il est à son premier parce qu'il vient de le faire.
Exactement. Et c'est vrai que pour cette logique-là, alors je vais te laisser préparer ta fiche. On voulait finir les 10 dernières minutes de l'émission et de ce podcast-là en parlant d'un système qui est très français, parce que en France, on le dit souvent, on est peut-être le pays en tout cas des premiers film. Pourquoi 1960, la création de l'avance sur recette. Alors, elle est créée par le ministre de la Culture de l'époque, donc André Malraux. Elle est attribuée par le président du CNC aujourd'hui, après avis consultatif des commissions. Alors, CNC, c'est le Centre National de la Cinématographie. C'est devenu vraiment une icône de l'exception culturelle française, l'avance sur recette, puisque c'est cofinancé par les chaînes de télé, par les producteurs, et tout l'argent amassé par le cinéma et les taxes qui sont créées pour permettre à des jeunes réalisateurs qui n'ont pas encore eu la chance d'évidemment avoir des fonds et des producteurs d'obtenir une avance, comme son nom l'indique, sur les recettes qu'ils remboursent quand le film a du succès, pour leur permettre tout simplement de faire leur film. Alors la liste des films qui ont été produits grâce à ce système d'avance sur recette, elle est absolument incommensurable et absolument impossible à raconter ici en une seule émission. On vous renverra vers les documents qu'on a trouvés. Juste ce que cette longue liste de films qui l'ont tenu ou pas, elle est devenue quasiment légendaire. Jean-Pierre Mocky dit tout le temps, par exemple, pour revenir sur lui, qu'il l'a jamais eu, qu'il l'a jamais demandé, parce qu'il y avait beaucoup d'influence. Et c'est vrai qu'il fallait être quand même présent dans les comités de sélection et avoir des amis en général pour y être. On disait également souvent que quand vous aviez un réalisateur qui faisait son deuxième, troisième film et qui demandait une avance sur recette, même si son film était moins bon, il profitait de son statut des films précédents pour l'obtenir. En tout cas, ce système d'avance sur recette, qu'il soit décrit ou pas, parce qu'il y a énormément de polémiques, hein, La Haine qui ne l'a pas eu l'avance sur recette alors que 6 mois après ils ont le César du meilleur film. Vous avez Le Jour et la Nuit de Bernard-Henri Lévy, qui est président de la commission du CNC au moment où son film obtient 3,5 millions d'avance sur recette en 1997. Je fais juste ça pour préciser que dans les statuts de notre association, Graffiti Cinéma, et on n'a pas le droit de dire du bien de la cinématographie de Bernard-Henri Lévy, sous peine de radiation. C'est important.
C'est vrai. Hein.
Non, mais c'est vrai en plus. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que la France est devenue un peu le film des premiers films grâce à ce système. Quand on parle d'exception culturelle française, on pense à plein de choses, mais l'avance sur recette, c'est pas forcément la première évocation qu'on a. Ces films-là, ils sont importants. Je vous dis, la liste est longue. Mais aujourd'hui, il y a des films encore qui en profitent, même si les dossiers sont de plus en plus compliqués à obtenir. Et il y a eu beaucoup de commissions qui ont été créées. Vous avez maintenant une commission pour le premier film, une commission pour les deuxièmes et troisièmes films. Et vous avez même des commissions complémentaires, on va dire, pour pas trop rentrer dans les détails. Et c'est cohérent avec ce que tu voulais nous évoquer, Juliette. Tu voulais nous évoquer deux films, en fait, des premiers films très récents qui, sans forcément avoir profité de ce système, en tout cas montrent en tout cas la vivacité qu'il y a en France sur les premiers films. Parce qu'on dit souvent que dans notre pays, il est plus compliqué de faire un deuxième, troisième film qu'un premier, paradoxalement, parce que ce système-là, depuis les années 60, a énormément poussé les chaînes de télé à investir en cinéma et donc à découvrir de nouveaux talents.
Salut mon cœur, ça va ? Tu peux aller chercher ta mère, s'il te plaît. Ah, tu viens ? Julien ? Julien ? Julien ? Je vais te laisser y aller à la fête ce soir. Faut juste que je joue avec ta mère quand je te ramène et quand je te récupère, c'est tout.
Elle est pas là.
Mais si, elle est là.
Elle est pas là.
Si elle est pas là, alors elle est où ? Julien ? Elle est où ? Elle est où ?
Oui, alors je voulais juste préciser que sur le site du CNC, vous avez la liste de tous les films qui ont bénéficié du système d'avance sur recette. Et tout à l'heure, tu as évoqué le premier film d'Agnès Varda. Elle en a bénéficié. Donc moi, je voulais juste dire que j'attendais fortement la suite du film Sound of Metal de Darius Marder. C'est vraiment un très beau film. Donc c'est un batteur qui devient sourd. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que, enfin, faut le voir. Voilà, on ne va pas pitcher plus le film. Donc il n'a pas bénéficié du système qu'on vient de parler parce que c'est pas un film français. Mais voilà, enfin, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu et je le conseille. Et l'autre film dont je voulais parler, c'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, un film de 2017, donc qui a bénéficié du système d'avance sur recette en 2015. Donc c'est un film avec Léa Drucker, Denis Ménochet. Et je vais donner aussi le nom du jeune acteur parce que moi, il m'a époustouflé. C'est Thomas Djuria.
Il faut savoir que Xavier Legrand avait fait un court-métrage sur le même sujet avant de se lancer, et c'est aussi grâce à ce court-métrage qu'il a eu l'avance sur recette. Donc lui, il dit qu'il s'est inspiré de Kramer contre Kramer pour la douleur de la séparation, de La nuit du chasseur pour l'aspect de se montrer sans concession avec les enfants pour arriver à ses fins, et de Shining pour la folie, l'enfermement et la terreur. Et alors moi, c'est un film, ça m'a bouleversée. Enfin, quand le film s'est arrêté, j'ai tremblé encore pendant une demi-heure, sans mentir. J'ai pleuré pendant 10 minutes. Enfin, j'étais vraiment sous le choc. C'est le choc que les films à suspense, les vrais films à suspense, vous provoquent, parce qu'on a des indices qui sont distillés tout au long de l'avancement du film, et on se dit, il va se passer ça, il va se passer ça. On est vraiment dans l'expectative, et voilà, on est soufflé. Et moi, ça m'a fait penser à un court-métrage qui s'appelle « Haut les mains ». C'est un court-métrage qui est d'Alfred Hitchcock, qui était dans Alfred Hitchcock Presents, qui était donc en 1961. C'est l'histoire d'un enfant de 5 ans qui trouve un pistolet dans les affaires de son oncle, et puis qui va se balader avec, pensant que c'est un jouet en ville. Et tout le long de ce petit court-métrage, on se dit... Là, il va se passer quelque chose. Là, il va tirer sur quelqu'un. Il va tuer quelqu'un. Donc, franchement, je vous conseille à la fois le court-métrage. D'ailleurs, beaucoup des court-métrages.
Je te coupe, ils sont dispo en DVD, les Alfred Hitchcock présente.
Je l'ai en DVD. Et franchement, ils valent le coup. Et moi, c'était un qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Voilà, c'est la tension de ce film. Et j'attends vraiment... beaucoup de ce réalisateur. Après, peut-être que le sujet me parlait plus qu'il ne parlera à d'autres personnes, je sais pas, mais voilà, cette tension, les acteurs sont formidables. Moi, je comprends pas comment Denis Ménochet n'a pas gagné le César. Je comprends pourquoi Léa Drucker l'a eu, mais lui, enfin, ce regard qui passe de la tendresse à la folie en un quart de seconde, c'était vraiment magistral. L'enfant est pareil, super.
Voilà la fin de notre odyssée dans les premiers films d'histoire du cinéma. Alors évidemment, la liste, on l'a dit, elle est toujours dithyrambique, comme on disait, Thomas.
Dithyrambique, merci.
Et évidemment, pour nous, il y avait une sélection de films totems qu'on a bien aimés, mais d'autres qu'on voulait évoquer. Et dans l'impact qu'ont eu les premiers films dans l'histoire du cinéma, on l'avait dit, hein, il faut tuer le PA, il faut avoir un effet d'avance. Ces films-là, on voulait en parler dans deux parties, parce que dans notre thème sur les premières fois du cinéma, il était important d'en ressortir quelques-uns, de rappeler quand même quelles sont les figures importantes et imposantes. Et parmi nos auditeurs, bah, s'il y en a quelques-uns comme ça, que vous hésitiez à écouter, il y a toujours des films comme ça, cultes, qu'on connaît et qu'on hésite, on cherche toujours une occasion à le voir, bah, allez-y, hein, si vous n'avez pas vu tous ceux qu'on a évoqués dans notre liste. Et si vous voulez en voir d'autres sur la liste qu'elle nous a concocté Juliette, on rappelle que c'est sur notre page Facebook Graffiti Cinéma. Nous étions dans le hall du Pâté Saran pour la troisième émission de notre thème sur les premières fois de l'histoire du cinéma. La semaine prochaine, on sera toujours dans le hall du Pâté Saran et on parlera de notre film du mois, c'est une nouveauté cette saison, où dans notre thème mensuel, on choisira un film par mois qui est en lien avec notre thème. Et donc pour ce mois-ci, sur ces premières fois, donc, on a choisi le premier film d'Albert Dupontel, Bernie, qu'il réalise en 1996, et on se retrouve avec lui donc dès la semaine prochaine sur nos réseaux. N'oubliez pas que Graffiti Cinéma, vous le trouvez en podcast sur Anchor, Spotify et Apple Podcast.
C'est pas un film sur Bernie Sanders.
Non, ce n'est pas un film sur Bernie Sanders. D'ailleurs, certains ont été déçus en le voyant, parce qu'il y a eu un peu un malentendu là-dessus. Et c'est comme ça qu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup les amis autour de la table. On se retrouve évidemment tous ensemble en votre compagnie très rapidement. Merci Milan, Nicolas, Thomas et... et Juliette, évidemment, qui est avec nous. On rappelle que Graffiti Cinéma, c'est aussi une association. Vous pouvez parfaitement y adhérer, nous rejoindre pour être un jour autour du micro ou en tout cas participer à toutes nos chroniques. Et on vous dit, nous, rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous.
Bisous.
Pourquoi vous avez fait chez Graffiti?
Non, pourquoi vous faites ça? Hein?
Non, c'est très bien, Jeanne.
Mais oui. C'est très bien.
Pardon.
T'es insortable, Juliette.